Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Depuis le 1er septembre 2015, le Collège de France a un nouvel administrateur. Alain Prochian, un des biologistes parmi les plus inventifs et brillants de sa génération. Titulaire depuis 2007 de la chaire Processus morphogénétique, il vient d'être élu par l'Assemblée des professeurs et succède ainsi au professeur Serge Haroche, spécialiste de physique quantique et prix Nobel de physique. Pour le seconder, le professeur Thomas Romer, titulaire de la chaire Milieu biblique, a été élu vice-président de l'Assemblée des professeurs. Poursuivre la modernisation du Collège de France et défendre l'excellence de la recherche française. C'est ainsi qu'Alain Prochian définit ses objectifs internationaux. Pour nous les présenter plus en détail et pour que nous puissions également faire plus ample connaissance avec lui, malgré un emploi du temps bien chargé, le nouvel administrateur a accepté de nous recevoir. Alain Prochian, bonjour. Vous êtes donc neurobiologiste, titulaire de la chaire Processus morphogénétique au Collège de France depuis le 4 octobre 2007, date de votre leçon inaugurale, intitulée Géométrie du vivant et parue depuis chez Fayard. Vous avez été élu par l'Assemblée des professeurs, administrateur du Collège de France, fonction que vous assurez depuis le 1er septembre 2015. Alors merci de nous recevoir dans les appartements de l'administrateur.
Oui, merci d'être venu.
Alors du coup, pas de cours cette année, ça va vous manquer?
Ça n'a rien à voir.
Pourquoi pas de cours alors cette
année? Non, parce qu'on peut s'arrêter tous les 8 ans ou tous les 7 ans. Moi j'avais fait 8 années de cours. On pose la question à son administration, ou en tout cas à l'Assemblée des professeurs, qui vous autorise ou non à prendre une année blanche. Et j'avais décidé de prendre une année blanche pour... Vous savez, les cours au Collège de France, on ne peut pas enseigner deux fois la même chose. Donc contrairement à un professeur ordinaire, ce qui est quand même un très haut grade, être professeur ordinaire, en tout cas dans les pays francophones, qui change d'étudiant et qui garde le même cours, nous, on garde plutôt les mêmes étudiants et on change de cours. Donc, au bout de quelques années, ça devient un petit peu compliqué parce que, bon, la première, deuxième, troisième année, on a évidemment plein de choses qui sont encore en stock, si j'ose dire. Mais après, ça demande un renouvellement qui nécessite pas mal de travail. Et là, j'étais arrivé au bout d'une série et j'avais envie de réfléchir un peu à une série suivante. Donc, il me fallait un an de réflexion, en fait, voilà.
Est-ce que vous allez pouvoir prendre le temps de la réflexion avec la fonction d'administrateur du collège, qui est quand même une fonction lourde?
Oui, enfin, ça dépend comment on l'exerce. J'aime bien la collégialité, donc en fait, je ne vais pas l'exercer seul. Je délègue très facilement dès que j'ai confiance. Et pour l'instant, je pense que j'ai le temps à la fois de m'occuper de mon laboratoire et probablement de préparer le cours de l'année prochaine.
Oui, parce que vous avez l'habitude de diriger des équipes. Alors, je rappelle que vous êtes membre de l'Académie des sciences, que vous dirigez le Centre interdisciplinaire de recherche en biologie qui comprend 18 équipes. C'est toujours le cas?
Oui, peut-être 20.
Peut-être 20. C'est pas grave. Qui travaillent dans différents domaines des sciences du vivant. Vos travaux avaient des conséquences thérapeutiques.
Pour la Fondation pour la recherche médicale, j'ai beaucoup travaillé pour cette fondation pendant plus de 20 ans. Et quand j'ai été élu à la fonction d'administrateur ici, j'ai quand même limité un tout petit peu mes occupations externes. Donc en fait,
vous avez fait un peu le tri, quoi.
Je me sens. Oui, enfin bon, il y a aussi le problème de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire et avoir des casquettes partout. Donc là, je suis essentiellement sur le collège, où j'ai la fonction effectivement d'administrateur. Mais aussi, je suis toujours directeur du centre de recherche. Ça ne prend pas énormément de temps. Parce que les équipes sont toutes indépendantes, selon un modèle auquel je tiens énormément. Et puis, j'ai une administration qui est très, très forte. Et donc, l'essentiel de mon temps, ça reste, si vous voulez, la direction de mon équipe de recherche. Oui. Donc, la recherche que nous menons dans mon laboratoire est une recherche très, très fondamentale, mais vraiment extrêmement fondamentale, c'est-à-dire, comme on dit, cognitive, enfin, qui est dictée par la curiosité des chercheurs qui travaillent avec moi. Mais bon, comme très souvent, et ça a amené à des observations qui nous ont fait penser qu'il y avait un intérêt de cette recherche pour des pathologies et aussi pour le développement d'outils pharmacologiques d'un genre nouveau, ce qui m'a amené à prendre pas mal de brevets, ce qui m'a amené aussi à monter une première biotech, puis une deuxième, c'est-à-dire une petite boîte de biotechnologie. Et nous sommes très engagés dans des travaux de ce genre à travers cette start-up, comme on dit, qui a été montée. La première a été revendue, mais la deuxième est en cours de développement. Donc oui, je pense que par un biais tout à fait étonnant et à mon avis qu'on ne pense pas assez, qu'on ne conceptualise pas suffisamment, une recherche très fondamentale peut tout d'un coup déboucher sur des choses. Comme disait Claude Bernard, si vous voulez, il n'y a pas une physiologie pour la santé et une pour la maladie. Donc quand on découvre un nouveau mécanisme physiologique, en même temps, quand ce nouveau mécanisme déraille, il y a de la place pour de la pathologie. Voilà. Donc c'est la même physiologie qui est à l'œuvre dans la santé et dans la maladie. Et donc, de ce fait, oui, nous avons des intérêts pour certaines pathologies. Aucun chercheur, je crois, qui se dit « Tiens, après tout, mon truc, ça pourrait servir », va dire que ça ne l'intéresse pas, parce que, surtout avec le temps, hein, de plus en plus sensible à la maladie quand on vieillit.
Bon, j'étais ravie de vous entendre citer Claude Bernard, naturellement.
C'est mon héros.
Qui est votre maître en vision du vivant, si je puis dire. Vous disiez que pour lui, tout meurt et se recrée, se fait et se défait.
Oui, Claude Bernard, pour la physiologie, est probablement quelqu'un qui a, au milieu du 19e siècle, si vous voulez, un tout petit peu revu la version, je dirais, ou la conception un peu thermodynamicienne du vivant, c'est-à-dire on grandit jusqu'à un âge optimal et ensuite tout se dégrade progressivement et quand c'est trop dégradé, hop, voilà. Donc Claude Bernard, c'est
la vision progressiste du vivant, en quelque sorte.
Oui, cette vision est une vision qui est très physicaliste du vivant et elle a son rôle à jouer dans le vivant, bien entendu. Il ne s'agit pas de dire que c'est sans intérêt. Mais ce que Claude Bernard a démontré et a surtout avancé à travers des concepts qu'il a mis au point lui-même, comme en particulier le concept de milieu intérieur et de régulation, des choses comme ça, il a démontré que le vivant, c'est à la fois de la destruction et de la construction permanente. C'est-à-dire, on perd des cellules et on en recrée, etc. Bon, c'est évident aujourd'hui, on sait très bien le rôle des cellules souches, où on casse de l'ADN et on le répare. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce double mouvement de perte et de reconstruction, et que la pathologie, c'est un défaut soit dans la perte, soit dans la reconstruction. Et le vieillissement aussi, d'ailleurs. Et donc, c'est une vision dynamique, si vous voulez, du vivant, et qui nécessite le développement d'outils conceptuels qui sont propres à une science du vivant. Donc, en fait, de cette façon, Claude Bernard a philosophiquement mis en place les bases d'une autonomie des sciences du vivant par rapport à la physique. C'est pragmatique, c'est pour comprendre le vivant, il faut développer les outils qui sont appropriés à la compréhension du vivant. Donc, il faut rentrer dedans, d'où la vivisection, d'où tout ça. Donc, on va aller couper un nerf, on va mettre de la strychnine. Donc, c'est ça le truc de Claude Bernard. Et de ce fait, ça va avec cette philosophie du vivant qu'il a développée, et aussi cette autonomisation des sciences du vivant à l'origine de laquelle on peut dire qu'il se trouve. Oui.
Alors, Bergson disait quand même quelque chose d'assez amusant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'en sais rien, mais ça, vous le savez. Dans un cas comme dans l'autre, alors nous nous trouvons devant un homme de génie, bien sûr, qui a commencé par faire de grandes découvertes. Alors, ça, c'est intéressant. Et qui s'est demandé ensuite comment il fallait s'y prendre pour les faire.
Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de méthode pour trouver. C'est-à-dire que le discours de Claude Bernard n'est pas un discours du « comment trouver ?» Si on savait, tout le monde trouverait. Il suffirait d'appliquer la recette, comme dans la cuisine. C'est l'étonnement du « comment ai-je trouvé ?», ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que tout d'un coup, « ah ben, comment est-ce que ça m'est arrivé, cette affaire-là » C'est un peu comme un accident de voiture, si vous voulez. Et il faut lire Claude Bernard à travers cet étonnement devant le fait d'avoir trouvé. Et ça, on trouve ça chez pratiquement tous les grands savants, pour peu qu'on s'intéresse un peu à ce qu'ils écrivent off-Broadway, si vous voulez, en particulier leur correspondance. Si vous lisez la correspondance de Darwin, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce doute permanent...
Autre héros.
Oui, autre héros. Mais surtout à travers sa correspondance, justement, parce qu'on voit le doute... On voit, et moi qui avais la crainte, il y a un texte comme ça, un jour il écrit à Lyell, je crois, qui est un géologue très très connu, qui était un de ses contemporains, un petit peu plus âgé que lui, Il écrit, là, il fait une erreur. Il pense que Lyell le soutient dans la théorie de l'évolution. Lyell le soutient, mais jusqu'à l'homme. Ça, c'est un, voilà. Mais il dit, ah, ça me rassure tellement ce que vous me dites. J'ai tellement craint d'avoir consacré ma vie à une chimère. Vous voyez, c'est ça qui est très très beau chez des gens comme Darwin ou Claude Bernard. C'est ce doute qui les habite et en même temps cet étonnement devant. Ah oui, j'ai trouvé quelque chose.
Le doute est cartésien aussi. Ça.
Le doute est cartésien. Mais là, c'est plutôt des doutes quasiment existentiels. C'est-à-dire de douter même de ce qu'ils ont trouvé.
Ouais. Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure de réparer l'ADN. On sait qu'il y a un prix Nobel qui vient d'être accordé à deux femmes qui ont découvert un moyen de réparer l'ADN. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un mot et en quoi ça peut intéresser le neurobiologiste que vous êtes, Alain Prochian?
Ben nous, on travaille à un niveau inférieur à ces gens-là, parce que ce n'est pas notre travail principal, mais la réparation de l'ADN est une chose extraordinairement importante, parce que, en particulier pour les neurobiologistes, vous imaginez que il y a du renouvellement de neurones dans le cerveau, hein, mais l'essentiel des neurones du cerveau vivent aussi longtemps que l'individu qui les porte, c'est-à-dire parfois jusqu'à 100 ans pour un être humain, même un peu plus aujourd'hui, avec l'allongement de l'espérance de vie. Et donc, ce sont des neurones qui sont soumis à des cassures permanentes. C'est-à-dire, il y a deux façons. Vous avez une cellule qui tombe malade, vous la balancez, vous en faites une autre. Voilà. Donc, qui sera plus ou moins bien, d'ailleurs, parce que, voilà. Mais l'autre chose, si vous avez une cellule qui ne se reproduit pas et qu'elle tombe malade, il faut la réparer. Or, l'ADN se casse très régulièrement. C'est-à-dire que c'est un phénomène très physiologique, la cassure de l'ADN. Pathologique s'il y a des agents toxiques, s'il y a des rayons qui vont aller casser, enfin, tout ce que vous voulez, mais aussi physiologique, c'est-à-dire que si vous commencez à penser, eh bien vous avez des cassures dans les neurones qui sont impliqués dans votre pensée. Ça se casse, hein, parce que ça crée de l'ATP, parce que l'ATP ça crée des radicaux libres, et puis vous avez un processus qui entraîne la cassure de l'ADN. Mais en même temps, ça se répare tout le temps. Donc c'est exactement un concept bernardien. Donc l'ADN se casse et se répare. Et ces phénomènes de réparation, en particulier dans les neurones qui sont des cellules post-mitotiques, sont un peu particuliers, c'est ce qu'on appelle ça un petit peu. J'appelle ça la réparation par raboutage, et pas par recombinaison homologue dans les cellules qui prolifèrent. Et bien entendu, c'est très très important, parce que si vous réparez mal, vous vieillissez encore plus vite. Et donc, pour le neurobiologiste, la réparation de l'ADN est quelque chose d'extraordinairement important, bien entendu. Les cassures dans l'ADN sont un phénomène tout à fait naturel. Leur réparation doit être assurée tout au long de l'existence.
Le biologiste et l'administrateur du Collège de France que vous êtes, Alain Prochian, travaillent donc en collaboration avec, évidemment, tous les autres professeurs du Collège, mais je suppose que vous travaillez plus précisément à partir de vos propres recherches avec certains d'entre eux. Je pensais d'ailleurs à la personne qui s'occupe ici d'épigénétique.
Edith Hurd, oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a les affinités entre êtres humains. Et c'est vrai que Edith est une personne tout à fait remarquable. Et c'est vrai qu'elle s'intéresse à des questions qui nous intéressent de plus en plus, en particulier sur cette question de la réparation de l'ADN. Il y a aussi la question derrière de la chromatine, ce qu'on appelle la structure en fait du noyau. C'est-à-dire que dans le noyau, vous avez plein de gènes, mais ce ne sont pas les mêmes gènes qui sont actifs selon les types de cellules. C'est-à-dire que dans un neurone, on ne fait pas les mêmes gènes que dans un fibroblaste, même si très très largement, c'est le même génome dans un neurone et un fibroblaste. Ce qui veut dire que vous avez des régions actives, vous avez des régions silencieuses, et que ce qui rend une région silencieuse ou active, c'est la structure de la chromatine. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique au niveau du noyau. Et donc nous, on s'intéresse énormément à ces questions, de plus en plus, et c'est peut-être à travers le contact avec Edith, d'une certaine façon, parce que, évidemment, on nous manip, mais on a un collègue avec qui on aime bien discuter, on discute, elle dit « Ah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça », donc je lui envoie mes papiers, elle me dit « Ça, c'est pas bon, il faut que tu refasses ». Elle me fait du conseil, donc... Oui, parce que quand on s'embarque vers des domaines qu'on ne connaît pas très bien, ce qui est quand même le but d'un professeur, j'imagine, ou chercheur, c'est de ne pas toujours répéter la même chose, même avec des petites variantes, mais essayer de s'amuser, quoi. C'est-à-dire que c'est plus amusant d'explorer des territoires nouveaux que de revenir toujours sur la même route tous les matins, donc même avec une petite variante.
Oui, il faut être un peu aventurier pour être...
Donc c'est ça sûr va. Que quand on s'est engagé dans cette affaire sur la base de résultats qu'on avait eus, Éditeur a été pour moi un conseil et un conseil amical, tout à fait, qui nous a rendu beaucoup de service. J'espère qu'on a bien suivi ses conseils et qu'on ne s'est pas gouré, mais ça c'est autre chose. Mais il y a aussi tous les professeurs qui travaillent au collège en biologie ou qui y ont travaillé, qui sont aussi des amis, bien entendu. Vous savez, je crois que la chose la plus étonnante dans cette maison, c'est d'être mis au contact de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans une vie, entre guillemets, normale, d'accord ? Toutes les vies sont normales, toutes les vies sont anormales, mais dans une vie d'universitaire qui n'est pas au collège, on rencontre plein de collègues, mais là, on est vraiment un assez petit nombre. Mais donc, oui, moi, j'ai grand plaisir, en tout cas, je ne sais pas si c'est réciproque, mais j'ai personnellement grand plaisir à discuter avec mes collègues des sciences humaines. Parfois, c'est un peu musclé, mais c'est toujours amical, voilà. Ça reste une conversation entre amis. Et je pense que c'est très bien comme ça.
Alors, vous êtes nouvel administrateur, vous avez évidemment un vice-président.
Je ne sais pas comment on dit,
mais en tout cas, c'est Thomas Romer, donc le bibliste.
Oui, la chaire des milieux bibliques.
Absolument. Quel type de relation est-ce que vous avez avec justement...
Avec Thomas, on a des relations amicales, justement. Ouais. C'est un des professeurs que je vois en dehors du collège. Pas dire du bien de Thomas, je veux dire, c'est trop facile, quoi.
Oui.
C'est comme dire que Venise, c'est joli, hein, donc ça n'a pas de sens. Donc, un plan impossible à rater pour un cinéaste. Donc Thomas, oui, il est de cette nature-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extraordinairement vivant, intelligent, astucieux, et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et aussi avec Marc Van Gaaf, qui est le troisième membre du bureau, qui est un chimiste.
Mais oui, qui est le secrétaire, lui, général.
Oui, mais c'est une direction qui est très collective et qui va au-delà de ces trois personnes qui assument le secrétariat d'une certaine façon. Qu'on a un bureau dit élargi, qui lui, le bureau qui est le vrai organe de direction du collège. Et là, on est quand même une dizaine. Alors, comme on est 43-44 professeurs, ça fait quand même une bonne proportion des professeurs.
Un quart. Et à ce bureau participent alors donc des littéraires aussi, des
bibliothèques. Ah oui, c'est 50-50. Et je pense que c'est très bien comme ça.
Quand vous avez été élu au Collège de France, l'administrateur devait être Pierre Corvol à ce moment-là.
On venait juste d'avoir la transition Glowinski-Corvol, oui.
Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre fonction depuis M. Corvol, qui a quand même mis en place beaucoup de choses, je crois. Il est arrivé aussi à un tournant dans la politique générale des sciences.
Mais Pierre Corvol a joué un rôle... Glowinski a joué un grand rôle pour la rénovation des locaux. Cette rénovation des locaux était indispensable à l'accueil de laboratoires. Et ensuite, une fois qu'il y avait les locaux, on se posait devant une vraie problème, c'est-à-dire comment les habiter de la meilleure façon possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que la recherche faite au Collège de France ne soit pas la meilleure possible. Donc il a fallu trouver les moyens d'attirer des professeurs pour qu'ils montent laboratoire au Collège de France. Et j'ai été élu en juin 2007, je crois, au Collège. Et j'ai quitté mon laboratoire de l'École normale en avril 2009, quand les locaux ont été ouverts. Et puis, on a essayé de monter tout ce qu'il fallait pour que la science au collège soit une science de très très haut niveau. Et je crois qu'on y est bien arrivé. C'est jamais parfait. Il faut jamais être content de ça. Il faut toujours aller plus loin. Mais Pierre Corvol a vraiment joué là un rôle, je dirais, essentiel. Parce qu'en même temps qu'il faisait ça, il a fait entrer le collège, je dirais, parmi les institutions qui ont ce qu'on appelle les compétences élargies. C'est-à-dire la forme d'indépendance, entre guillemets, pas totale, mais qui avait été permise par la loi promulguée par Mme Pécresse à ce moment-là. Et donc ça a demandé, si vous voulez, un renforcement extraordinaire de l'administration du collège, parce que c'est le collège qui fait les feuilles de paye, c'est le collège qui gère son budget, c'est le collège... Donc ça s'est accompagné, l'arrivée de Pierre Corvol, d'une réorganisation absolument, je dirais, galiléenne de la façon dont le collège fonctionne, avec une administration qui est devenue très puissante. Heureusement, d'ailleurs, Madame Marilène Messon-Derenne, qui est notre directrice générale des services, fait un travail extraordinaire, et c'est grâce à elle, si vous voulez, que je peux être administrateur du collège en étant les trois quarts de mon temps dans mon laboratoire. Parce que j'ai des services qui sont impeccables.
Qui tournent, quoi.
Qui tournent et à qui je peux faire une confiance totale. C'est-à-dire que mon boulot, c'est de la politique. Mon boulot, c'est pas de l'administration. Ce n'est plus l'administration.
C'est très important.
Voilà.
Ça,
donc mon boulot, c'est de donner les orientations politiques que nous décidons collégialement au bureau élargi, que nous faisons approuver par le conseil d'administration du Collège de France, qui se réunit 3 fois par an un dimanche pour approuver les décisions prises par l'administrateur ou pour donner des consignes à l'administrateur. Et mon rôle, c'est d'implémenter les décisions d'un conseil d'administration. Je suis président de l'Assemblée des professeurs. C'est ça mon vrai rôle. Et je suis donc président du conseil d'administration et je dois faire appliquer à mon administration, en tant qu'elle est une administration technique,
les décisions
prises par les professeurs. Et c'est comme ça que je vois mon rôle. Et c'est un rôle dans lequel, si j'ai confiance, je peux déléguer un maximum. Et donc, continuer à être un vrai chercheur et un vrai enseignant, car je n'abandonne pas cette fonction.
Il y a eu le tournant Corvol. Ensuite, Serge Haroche, qui est physicien, a pris la relève. C'est lui qui a été élu administrateur. Au fond, il a amplifié le travail.
Serge a pris des décisions très importantes. Si vous voulez, Serge a eu à la fois le bonheur et le malheur de recevoir le prix Nobel le jour où il était nommé administrateur, quasiment. Ouais. C'est-à-dire qu'il a pris ses fonctions le 1er septembre, il a été le Nobel le 6 ou le 7 octobre qui suivait.
Et du coup, il a été totalement débordé.
Non, il n'a pas été débordé. Il avait la chance d'avoir l'administration dont je vous parle, qui a permis de maintenir les choses.
Quand même, il y avait des ministres qui répliquaient au
dernier
moment.
Il a été probablement très très pris, il a dû voyager beaucoup. Mais il a fait quand même des choses très importantes. Je ne vais pas entrer dans les détails au niveau de certaines règles qui ont été changées dans la façon de fonctionner du collège. Je vous parlais de l'importance d'avoir une recherche très forte au Collège de France. C'est au moment où se terminaient les laboratoires de physique.
C'est ça.
Et donc, si vous voulez, il a installé toute la physique au Collège de France. C'est une énorme chose. Corvol avait installé la biologie, et là j'avais joué mon petit rôle de seconde main, puisque c'est moi qui étais responsable de la biologie au Collège. Mais je n'aurais pas pu le faire sans l'aide de Pierre et sa volonté politique de le faire. De cette façon, Serge Haroche a fait pour la physique ce que Pierre Corvol avait fait pour la biologie. Mais les labos de biologie étaient prêts avant ceux de physique, c'est tout. C'est pas une hiérarchie bernardienne.
Psychologie de fond de tube. Les enfants qui ne seront pas transplantés dans l'utérus de leur mère biologique, mais dans celui d'une autre femme.
Et comme le double don de gamètes est actuellement interdit...
Mais 28 enfants également sont nés en 2007 pour 124 transferts d'embryons congelés réalisés.
28 enfants seulement.
Cela est peu.
28
Ce don est rare. Il est difficile pour un couple de céder un embryon qui porte son patrimoine génétique et qu'il considère comme son enfant.
Et puis le séjour dans l'utérus de la mère d'accueil n'est pas neutre. Donc cela relativise la place du génétique dans la construction de la parentalité.
Ça te rassure vraiment ?
C'est pas neutre le séjour dans l'utérus de la mère d'accueil.
Marc, ce serait plutôt une bonne nouvelle.
L'influence épigénétique.
Ça voudrait dire que moi, le passage dans la mère porteuse. J'ai un petit peu quand même l'enfant qui vient d'ailleurs, l'embryon qui vient du froid.
Et puis le séjour dans l'utérus de la mère d'accueil n'est pas neutre. Donc cela relativise la place du génétique dans la construction de la parentalité.
Alors, vous avez collaboré, Alain Prochian, avec Jean-François Perret à l'écriture de la pièce Ex vivo in vitro, qui a été donnée au Théâtre de la Colline en novembre 2011. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs livres avec lui. Et vous êtes un grand vulgarisateur. Alors, vous avez écrit de nombreux livres comme Les stratégies de l'embryon en 87, par exemple, ou encore La construction du cerveau en 89, un livre évidemment sur Claude Bernard, La révolution physiologique en 90. Mais alors, vous avez écrit aussi un livre qui s'appelle La biologie dans le boudoir.
Nous avons fabriqué 4 pièces avec Jean-François. 4 pièces de théâtre, une tour des métamorphoses de Vide qui s'appelle La génisse et le pythagoricien. On a monté les variations Darwin à Chaillot.
Ah oui.
On a monté des chimères en automne à Chaillot aussi. Et on a monté effectivement Ex vivo in vitro à la Colline. Jean-François Perret est un grand fabricateur de théâtre. C'est probablement un des meilleurs metteurs en scène français, et probablement au-delà. Et c'est quelqu'un, si vous voulez, qui s'intéresse à ce qui est un peu contemporain dans les sociétés. C'est-à-dire qu'il s'est intéressé à Turing, s'est intéressé à la science, s'est intéressé... Comme il dit souvent, méfiez-vous, si vous ne vous intéressez pas à la science s'intéresse à vous. Et donc, quelqu'un qui apporte, si vous voulez, essaye d'apporter à un public un tout petit peu une réflexion philosophique et scientifique. Et c'est pour, si je vous dis ça, c'est pour reprendre le terme de vulgarisateur. Je ne suis pas un vulgarisateur. Je suis quelqu'un qui fait son travail de laboratoire, mais qui a aussi besoin de réfléchir plus librement que dans un laboratoire.
C'est ça.
Ce que j'appelle la science nocturne.
Oui, absolument. Mais je disais vulgarisateur au sens où, au fond, ça permet quand même à un public cultivé de partager des recherches de haut niveau. Et ça, c'est quand même très, très précieux dans le monde qui nous entoure.
Oui, mais c'est pas vulgarisant, ça. Parce que dans vulgarisateur, il y a quelque chose que je n'aime pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on simplifierait
pour
l'homme de qualité.
Mon
idée n'est pas de simplifier.
Oui, oui.
Mon idée, c'est de faire comprendre, quels sont les enjeux, quelle est l'histoire de la chose, d'un concept, par exemple. Pourquoi c'est important de lire Turing ou Claude Bernard pour un biologiste d'aujourd'hui? Et je pense que c'est très important. Et de prendre ce temps, ce que j'appelle la science nocturne, est très important. Et en même temps, de prendre des problématiques, si vous voulez, et de les déplacer sur un théâtre. Or, une science qui est déplacée sur un théâtre, c'est, je dirais, de la science poétiquement modifiée. C'est-à-dire
donc, c'est pas de la vulgarisation.
C'est pas de la vulgarisation.
J'aime bien votre expression de la science poétiquement modifiée.
Voilà, elle n'est pas de moi, elle est de Jean-François, justement. Et je crois que ça donne un autre regard sur la science pour les gens qui ont le goût d'aller voir ces choses-là. Parce que vous voyez, vulgariser, d'une certaine façon, ça veut dire essayer de donner dans un essai scientifique le dernier état de la science. Or, le dernier état de la science, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est comme les dictionnaires d'argot, on est toujours en retard d'une banlieue. Donc, non, il n'y a pas de dernier état de la science. Il y a une problématique qui traverse une discipline scientifique, qui se modifie avec le temps et sur laquelle on travaille toujours. Donc, et ça, je pense que c'est très important de le faire comprendre pour donner aux gens le goût de la science. Parce que sinon, c'est ennuyeux. Je veux dire, les gens pensent que la science est ennuyeuse, mais la science... Et c'est aussi des gens qui font de la science, c'est aussi des sujets de la science. Et ça, c'est très important que les gens comprennent qu'il y a une passion, il y a une curiosité, il y a quelque chose qui relève de l'essentiel de ce qu'est un être humain, hein, parce que ça fait partie de l'humanité d'être curieux, justement. Donc, c'est ça qui doit passer dans la tête des publics pour qu'ils ne soient pas, si vous voulez, ni hostile à la science. Ou alors, s'ils n'aiment pas la science, qu'ils sachent pourquoi. Hein, qu'ils n'aiment pas la science comme on n'aime pas les étrangers, vous voyez, hein, genre de truc. Donc, moi, je ne me dérange pas que les gens n'aiment pas la science, mais au moins qu'ils aient réfléchi de la raison pour laquelle ils n'aiment pas la science.
C'est bon.
Hein. Et surtout dans un milieu, si vous voulez, qui est tellement, aujourd'hui, technologisé. Hein. Vous ne pouvez pas faire un geste sans, en fait, qu'il y ait derrière des masses de science. Et,
ouvrir un ordinateur, par exemple.
Mais il faut que les gens se saisissent de ça, comprennent ce qui se passe.
Bien sûr.
Sinon, il y aura pas. C'est un problème de démocratie quasiment qui se pose derrière tout ça, dans les choix scientifiques et techniques. Donc, oui, je pense que c'est vraiment très très important. C'est ce que j'essaye de faire dans mes cours au collège aussi, même s'il reste à très haut niveau technique. Je sais pas si vous avez essayé d'écouter, mais c'est pas facile. Mais il y a des gens qui viennent quand même. Ça m'étonne toujours, d'ailleurs. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc, il faut comprendre que ce sont des humains qui font de la science et que c'est pas des choses de... Pour moi, c'est de l'ordre de la littérature, la science. C'est la même chose, c'est les mêmes ressorts. C'est cette façon de n'être jamais satisfait de ce qu'on écrit, de n'être jamais... Pour l'art, qu'est-ce qui dirait aussi une belle œuvre d'art d'une œuvre moche, hein? C'est que dans une très belle œuvre d'art, vous la regardez et vous n'êtes jamais satisfait. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais rempli de ce que vous voyez. Vous voyez toujours, il y a toujours d'autres choses à voir.
C'est d'ailleurs pourquoi on a toujours envie de la revoir.
Vous êtes toujours dans l'insatisfaction. Eh bien, la science procède de ce même mouvement, c'est-à-dire qu'un vrai scientifique, il est toujours dans l'insatisfaction. C'est les mêmes ressorts, vous voyez, donc l'imagination, la curiosité, et évidemment derrière une très grande rigueur, parce que derrière ça, il faut tout solidifier à chaque fois. Donc on n'a pas cette liberté qu'ont les artistes. Mais il y a cette part-là qui est une part qui est très importante, qui appartient à ce que c'est qu'un être humain quand même. Voilà. Donc les scientifiques sont des êtres humains, contrairement à ce que certains croient.
Alors, je reviens quand même. La biologie dans le boudoir, quel
drôle
de titre.
Ben, pourquoi? Parce que je suis un lecteur de Sade, mais pas un lecteur de Sade qui lit Sade d'une main, un lecteur de Sade qui lit Sade des deux mains. Parce que derrière le pornographe bien connu, Sade est probablement un des plus grands philosophes de la nature du XVIIIe siècle. Et ce qu'il faut, ce que
un
moi...
lecteur de Hobbes.
Voilà, lecteur de Hobbes, Holbach, enfin, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est la question de la nature est toujours présente chez Sade. Et d'un point de vue qui est un point de vue daté radical. C'est-à-dire, alors ça c'est une longue histoire qu'on pourrait raconter, mais Galilée, qui est notre maître à tous, parce que l'Europe c'est quand même l'Europe aussi des sciences. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui a inventé les sciences telles qu'on les fait aujourd'hui. C'est tout à fait extraordinaire. Et, Donc la Renaissance, si vous voulez, se prolonge évidemment dans le siècle des Lumières, mais ce que fait Galilée, c'est un geste qui, d'une certaine façon, réinterprète les Écritures. C'est-à-dire qu'en fait, la nature a été écrite en langage mathématique, mais ben, il n'est pas du tout anti-religieux. C'est-à-dire que Dieu a écrit la nature en langage mathématique, et donc il faut déchiffrer le langage mathématique dans la nature. Et donc cette tension entre science et nature, hein, c'est pas entre religion et raison, hein, cette tension entre science et nature est une tension extraordinairement intéressante. Et ce que dit Sade, c'est ni Dieu ni nature. C'est-à-dire que, et d'un point de vue de la morale, si vous voulez, c'est-à-dire que il n'y a pas de règle morale immanente, pas plus qu'il y en a de transcendante. C'est-à-dire que il a tort sur plein de trucs, bien entendu, on est au XVIIIe siècle, mais pour lui, les gens ne sont pas coupables de leur passion, même si elles les conduisent au crime, parce que c'est dans leur nature. Et donc, ce n'est ni bien ni mal. Ils sont comme ça. Ils sont assassins comme on a le nez retroussé, d'accord ? Donc, et ça, c'est assez intéressant parce que c'est une époque où on essaye de mettre des règles morales dans le cerveau, par exemple. Hein, GAL, hein, les localisations cérébrales. Donc, lui, il n'est pas contre les localisations cérébrales, bien entendu, mais bon, bah, ça tombe mal, ce pauvre, et là, le cerveau fait comme ça, il est un assassin. Donc, il est contre la peine de mort, parce que la peine de mort d'État est un crime. Mais un crime commis sous l'empire de la passion dont on n'est pas responsable, ce n'est plus vraiment un crime. Donc, il y a derrière l'œuvre de Sade toute une pensée de la nature, qui est une pensée extraordinairement intéressante, surtout aujourd'hui, où l'idée de nature est quelque chose qui nous revient en permanence. Hein. On va en parler pas mal dans les mois et les années qui viennent, avec COP21, etc. Donc, qu'est-ce que la nature vraiment ? Donc, c'est ça qui m'intéressait chez Sade. Et quand j'ai écrit la biologie dans le boudoir, c'était un peu une réflexion sur ce qu'est la biologie. Hein, parce qu'on ne peut pas penser la biologie sans avoir une petite idée de ce qu'est vraiment la nature, si vous voulez ce que je veux dire. Donc je ne vais pas refaire tout, mais ma lecture de Sade n'est pas la lecture du pornographe, ma lecture de Sade est la lecture du moraliste. Ce qui n'est pas la même chose qu'un puritain, bien entendu.
Rappelle le titre de votre dernier livre, « Qu'est-ce que le vivant ?», paru donc aux éditions du Seuil. Alors voici ce que vous en dites, Alain Prochian. « Certains livres annoncent des vérités, celui-ci pose des questions. Face à sa diversité et à son extraordinaire plasticité, comment appréhender le vivant ?» C'est une vraie question ?
Oui, c'est une vraie question. Qu'est-ce que le vivant, si vous voulez, c'est un petit peu, pour ne pas dire, comme l'a dit un certain Schrödinger, « qu'est-ce que la vie ?» hein. Parce que qu'est-ce que la vie ? C'est un peu spiritualiste.
Tout à fait.
Et même si Schrödinger est un grand physicien et un grand savant, il faudrait être idiot, surtout dans cette maison. Serge Haroche, quand même, le chat de Schrödinger, je peux faire attention à ce que je dis quand même. Parce que bon, il se pourrait qu'à 5h du matin, il ait l'insomnie qui vous écoute. Donc, ou que quelqu'un lui podcaste le truc. Donc je me méfie beaucoup. Donc, mais comme biologiste, je pense qu'il a une attitude qui est un petit peu
spiritualiste,
même si elle a beaucoup servi, parce que ça a à voir avec l'histoire de Claude Bernard. De nouveau, on revient toujours à Claude Bernard.
Oui, donc, oui, ça je sais.
Soyez tranquille. Donc Claude Bernard, il tranche avec une sorte de physicalisme du vivant contre Bichat, d'une certaine façon.
La vie est l'ensemble des forces qui
résistent à la mort. Et lui, c'est pas Dieu, la vie, c'est la mort. Mmh. Hein, c'est la mort à chaque instant et c'est la reconstruction à chaque instant, comme on le disait au début de cette discussion. Et d'une certaine façon, ensuite, il y a eu des périodes un peu difficiles pour la biologie. Et Schrödinger et les physiciens, d'une certaine façon, nous ont apporté des outils formidables, en particulier à travers la théorie de l'information. Donc, tout d'un coup, la notion de programme est arrivée. Le génome, c'est un programme qui est traduit en... Mais la théorie de l'information, c'est une théorie qui est dérivée du deuxième principe de la thermodynamique. Il faut le savoir. C'est I égale colloque de P, hein, si je peux me permettre. Donc, si vous relisez Wiener, si vous lisez Brillouin, qui a des professeurs dans cette maison, vous verrez que la théorie de l'information, c'est une branche, c'est une application du deuxième principe de la thermodynamique. Donc, de toute façon, c'est un retour en arrière. C'est-à-dire, c'est un retour à une conception, je dirais, épistémologique du vivant, pré-bernardienne. Donc, c'est à la fois très positif, parce que toute la génétique moléculaire, d'une certaine façon, est née de la théorie de l'information. Vous devriez lire, on dit relire, hein, Michel Serres, hein, traduction, où il fait une sorte de travail sur Jacques Monod, où il montre très bien cette filiation entre la thermodynamique et puis la biologie moléculaire, l'invention de la génétique, enfin, telle qu'elle a été inventée par Monod, Lvov et Jacob. Lvov qui était aussi un physicien au départ. Et ça a permis des progrès immenses. C'est-à-dire que c'est jamais linéaire, ces choses-là. Ça a permis des progrès immenses, en particulier, toute la naissance de la biologie moléculaire hein, et de la génétique moléculaire. Donc on doit cette vision un peu physicaliste. Mais en même temps, on oublie un tout petit peu ce qu'est la physiologie vraie, si j'ose dire, et ce que serait une théorie du vivant. Donc, une théorie du vivant, ça ne peut pas être une théorie de la physique appliquée à des organismes vivants, parce qu'il y a des choses qui sont spéciales au vivant. Je reprends un terme bernardien, ce qui est spécial au vivant. Et ça doit être pensé avec une théorie qui est une théorie, vous savez, c'est pas un truc qui est en l'air comme ça et qui est un texte sacré. Une théorie, ça évolue, hein. Sinon, ça devient un dogme ou ça devient une religion. Mais il faut créer une théorie du vivant, une théorie du vivant qui rende compte de ce qu'est spécifiquement le vivant par rapport à ce qui est le non-vivant. La reproduction, l'évolution, le développement sont des mécanismes qui sont à penser dans le cadre d'une théorie du vivant et pas dans le cadre d'une théorie. Même si, évidemment, il y a des phénomènes physiques et chimiques, je suis totalement athée, matérialiste. Mais si vous prenez un cerveau, par exemple, d'accord, et vous le jetez à travers cette salle, et vous décrivez sa trajectoire en fonction des circonvolutions, vous ferez de la physique, vous ne ferez pas de la neurobiologie.
Bien
d'accord,
sûr.
Même si vous travaillez sur le cerveau. Donc, ce qui vous intéresse quand vous êtes biologiste, c'est des phénomènes qui relèvent d'une pensée du vivant. Et que j'ai voulu dire là, cette diversité, etc., c'est essayer de penser ce qui nous manque, si vous voulez, peut-être, ou ce qu'on a, mais on ne s'en est peut-être pas forcément encore rendu compte, c'est une théorie du vivant qui reste à construire, à développer et surtout à accepter, tout bêtement, voilà.
D'ailleurs, la morphogénèse induit le mot de processus, de mouvement permanent.
La morphogénèse, il n'y a que des formes dans la nature. Hein. C'est pour ça que je m'étais intéressé à Ovide, parce que Ovide, il fait de la métamorphose. Hein, c'est quand même formidable quand vous êtes biologiste. Nous, il faut qu'on travaille pendant des années pour changer une forme d'un bras ou d'une patte ou d'une oreille. Ovide, lui, paf et hop, transformer Yo en vache. Donc c'est quand même formidable. La seule métamorphose réversible chez Ovide. Et c'est ça qui m'avait fasciné, c'est cette sorte de changement de forme.
Ouais.
Pour un morphogénéticien, Ovide était forcément un précurseur intéressant, puis Apulée aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que le vivant, c'est la construction et la destruction permanente de formes. Et voilà, nous sommes des formes qui évoluent et qui se transforment et qui naissent, grandissent et puis meurent. Voilà, c'est comme ça, il faut s'y faire, même si c'est difficile.
Parlons, si vous voulez bien, Alain Prochian, de votre vision des choses et de vos projets, donc dans le cadre de vos nouvelles fonctions. Comment analysez-vous les questions qui se posent aujourd'hui au savoir et à la recherche ?
Bon, les questions scientifiques, je ne dirais pas qu'elles se posent d'elles-mêmes, mais elles s'ancrent dans l'histoire des disciplines et les questions qui se posent sont les questions... Hein, je veux dire, d'une certaine façon, les questions que posait Claude Bernard se posent encore aujourd'hui, que posait Darwin se posent encore aujourd'hui, mais bon, la technologie, les progrès des sciences, la façon d'avancer, de les poser différemment, de les transformer. L'autre question, c'est la question de la place de la science dans la société.
Absolument, voilà, donc, c'est une question évidemment politique.
C'est une question politique, c'est une question aussi culturelle. Faire entrer la science dans la culture me paraît indispensable, bien entendu.
Mais elle en fait partie d'office, c'est-à-dire on veut le savoir ou pas, mais...
Oui, mais il y a une tension, si vous voulez, qui est inévitable entre les savants et la société. Parce que si vous êtes un artiste, sauf en Union soviétique dans les années 30, vous n'êtes pas payé par l'État, d'accord ? Très peu. Si vous êtes un scientifique, vos laboratoires, c'est de l'argent qui vient... des taxes, d'une certaine façon. Hein, mes impôts, où vont mes impôts hein. Donc, d'une certaine façon, le scientifique exige sa liberté et celui qui finance exige que le scientifique fasse de la science pour le peuple. Donc, moi, je suis très hostile à la science pour le peuple parce que je pense que ça ne marche pas. Les soviétiques, justement, ont essayé, on a vu les résultats. Parce qu'on ne peut pas prévoir ces choses-là. Donc, il faut admettre qu'on va donner la liberté aux scientifiques. Et que c'est la meilleure façon pour que sortent des choses qui puissent un jour être utiles à une société. Alors ça, c'est un discours qui est très difficile à faire passer, si vous voulez, auprès d'un homme politique qui veut toujours tout contrôler. Mais les scientifiques, on peut pas contrôler. Nous-mêmes, on contrôle pas totalement.
Et puis qui veut des résultats immédiats, enfin, etc.
Oui, mais ça, c'est sans des fantasmes, parce qu'il peut y avoir des résultats très rapides. Et puis des résultats qui seront à très long terme. L'exemple que je prends le plus souvent, parce que j'aime beaucoup cette dame, en fait, c'est Barbara McClintock. Dans les années 50, elle découvre, en étudiant les épis de maïs, je me répète parce que c'est un truc que je prends souvent comme exemple, mais je pense que c'est un exemple extraordinairement significatif de comment ça fonctionne, la science. En regardant les épis de maïs, elle se rend compte qu'il y a des grains qui sont colorés, qui sont noirs, et dans un épi jaune, en gros. Donc elle se demande pourquoi, d'un coup, il y a un grain de maïs qui arrive noir. Et c'est là qu'elle découvre ce qu'on appelle les éléments mobiles dans le génome. Elle découvre qu'il y a des morceaux d'ADN qui sautent d'un endroit à l'autre du génome, qui interrompent des gènes, qui font apparaître de nouvelles fonctions. Et aujourd'hui, pour le cancer, comme pour les neurosciences, cette question de l'instabilité des génomes, sur laquelle elle a mis le doigt en 1950, est une question absolument fondamentale. Alors, Madame McClintock n'aurait jamais été financée par un plan Alzheimer ou un plan cancer pour travailler sur la couleur des grains dans un épi de maïs. Donc, et ça, c'est lié au fait que le vivant est à la fois très divers, mais en même temps, à cause de la théorie de l'évolution, on vient tous d'une même unicellulaire ancestrale. Hein, en même temps, il y a plein de mécanismes qui sont extrêmement conservés. C'est-à-dire que si vous allez travailler sur le maïs, vous allez travailler sur la levure, vous allez travailler... Paul Nurse a eu le prix Nobel avec quelques autres sur la réplication de la levure, et c'est des choses qui sont fondamentales pour comprendre le cancer, la division cellulaire, les checkpoints, tout ça. Donc... à cause justement de cette unicité, d'une certaine façon quand même, du vivant dans cette diversité, on ne peut pas dire « je vais travailler, c'est bien de travailler sur le cancer, j'ai rien contre », mais on ne peut pas dire « arrêtez de travailler sur les mouches hein, », arrêtez de... ça, les soviétiques ont fait ça, arrêtez de travailler sur les mouches. Babylov a fini sa vie dans un camp en Sibérie, et la génétique soviétique ou pré-soviétique, qui était une des plus grandes génétiques du monde, a été cassée par le pouvoir soviétique. Avec des résultats qu'on a pu voir dans l'agriculture, justement, hein, science pour le peuple. Donc, cette idée d'une science pour le peuple, qui est aussi à la Communauté européenne, pas mal, et tout, c'est une idée populiste, hein, qui va à l'encontre du but recherché. Mais pour ça, il faut accepter qu'on donne un peu de liberté aux gens qui ont choisi ce métier par curiosité. Je parlais tout à l'heure de curiosité. Et donc, il faut les laisser assouvir leur curiosité. Et ça coûte pas cher. C'est ça qu'il faut quand même comprendre, c'est que c'est très très peu d'argent.
Oui, alors ça, voilà. c'est quand même surprenant, parce que j'ai lu un texte de vous, mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu plus avant, parce que, en effet, nous concevons, je crois que les auditeurs de France Culture aussi, conçoivent très bien qu'en effet, seule la liberté, en quelque sorte, est payante, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on trouve quelque chose, peut-être que dans 10 ans ou 20 ans...
Il y a deux choses. C'est d'abord qu'on va trouver des choses qui auront des applications.
Absolument.
Je vous parlais tout à l'heure des travaux qu'on fait dans mon labo. Je ne sais pas si on va guérir le Parkinson. Je n'ose même pas y penser. Mais enfin, on a commencé des manips à partir de trucs qui, au départ, étaient mais alors très, très mal acceptés, je peux vous dire, d'un fondamental qui était tellement fondamental que personne n'y croyait et que moi-même, j'ai perdu beaucoup de cheveux, comme vous pouvez voir, en y pensant. Mais en dehors de ça, les industries investissent là où il y a des savants. Hein. C'est-à-dire que ils sont très contents d'avoir un milieu scientifique très riche. Par exemple, aujourd'hui, le plus grand site d'investissement scientifique, c'est à Cambridge, aux États-Unis. Hein. Même Sanofi, il achète des industries à Cambridge. Pourquoi ? Parce que il y a un milieu intellectuel tellement riche qu'il y a plein d'idées. Et les industriels ne sont pas des imbéciles. Donc, il y a plein d'idées. Il y a des gens qui sont très compétents, qui viennent faire des postdocs ou prendre des postes chez eux, et que ça nourrit tout de suite, si vous voulez, l'investissement scientifique et l'investissement en innovation. Parce que l'innovation est une chose extraordinairement importante. Donc, moi, je ne suis pas un type, on va faire que de la recherche fondamentale et pas d'innovation. Mais même la recherche fondamentale, quand elle ne rend pas tout de suite, elle crée un milieu qui attire les investissements en innovation. Donc, ça, c'est une chose déjà. Et ça, ce n'est pas très cher. Vous voyez, ce n'est pas très cher. Je sais qu'on peut dire que c'est cher, mais le PIB de la France, c'est 2 000 milliards, à peu près. Hein. Nous donnons 2,25% de notre PIB à la recherche et l'innovation. Dans ces 2,4%, il y a environ 0,8% pour la recherche académique. Donc 0,8 de 2 milliards, je ne sais pas, moi, ça doit faire 16 milliards, en gros, d'accord. Les Allemands, ils mettent 3%. Donc tous les ans, ils nous mettent 16 à 20 milliards dans la vue, d'accord. Une partie en innovation, et c'est très bien, mais aussi une partie en recherche fondamentale, et c'est très bien aussi. Donc pour être au niveau, je dirais, de nos collègues et amis d'Outre-Rhin, il faudrait que la France mette environ 4 milliards de plus par an dans la recherche fondamentale.
Oui, mais comme vous le faites remarquer d'ailleurs, dans un article, la chancelière allemande est une physicienne au départ. Donc,
oui, et son compagnon est chimiste.
Et son compagnon est chimiste. Donc ce sont des gens qui ont une vraie culture scientifique.
Oui, mais enfin, les Coréens mettent 5%. Je crois que les nations qui veulent être au rendez-vous dans quelques années sont des gens qui ont compris qu'il faut investir dans la recherche et dans l'innovation. Et malheureusement, on ne le fait pas assez chez nous, et je pense que c'est un combat à mener de convaincre les politiciens et les hommes politiques, que surtout, je ne dis pas politiciens, mais les hommes politiques et les femmes politiques, mais bon, c'est hommes avec au sens d'humain, les humains politiques, voyons, soyons politiquement corrects, d'investir dans la recherche fondamentale, parce que ça attirera l'investissement en innovation, et ça nous permettra de compter dans les nations importantes. Parce qu'une nation de la taille de la France qui cesse d'exister sur le plan scientifique, ou sur le plan culturel, cesse d'exister tout court. Il faut quand même comprendre ça. Mmh. Donc il y a une dimension symbolique. Et quand on a un tel capital, parce que la France a encore un immense capital scientifique et culturel et intellectuel, ne pas l'entretenir et ne pas le développer, c'est mener une politique aveugle, même pour l'intérêt de cette nation. Donc c'est incompréhensible pour des gens comme nous.
Est-ce que l'administrateur du Collège de France, dans un champ politique, a une voix qui peut être entendu à l'improchian?
Je ne sais pas, mais je compte bien, parce que je pense que les hommes politiques ne sont pas idiots du tout. Je pense qu'ils peuvent comprendre ça, mais il faut leur expliquer patiemment, et il faut faire du travail, quoi. C'est un travail d'expliquer ça. Mais la politique, c'est des choix. Hein. Moi, j'étais toujours étonné quand... Bon, j'ai rien contre les restaurateurs, je vais au restaurant très souvent parce que j'ai pas le temps de faire la cuisine, vous imaginez. Mais quand on décide qu'on passe la taxe de la restauration de 21% à 5%, pour la remonter à 10% derrière, mais bon, on n'est pas à 21, on décide qu'on met 3,5 milliards d'euros par an en moins dans les caisses de l'État. Le budget total du CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, salaire compris, toute discipline comprise, c'est moins de 3 milliards, il faut quand même le savoir. Donc ça, c'est des comparaisons de chiffres.
Oui, hein, très parlantes.
Hein, donc, oui. Gouverner, c'est choisir. Oui. Moi, j'aurais préféré qu'on laisse la taxe à 21% et qu'on mette 4 milliards dans la recherche publique.
Évidemment.
Voilà. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas 4 milliards, parce que, vous savez, je comprends bien les hommes et les femmes politiques. Je veux dire, je n'ai pas de problème, mais un jour, je vais voir un politicien, justement, un politique, à un ministère de la recherche, et je lui demande 60 millions pour la biologie. Libérer les agences nationales avec, en leur donnant de la liberté, un peu d'argent. L'ANR, qui est l'Agence nationale de recherche française, elle est aujourd'hui à 500 millions d'euros. La DFG, qui est l'équivalent allemand, ils sont à 2 milliards. Voilà, hein. Donc, et en plus, on a des règles absurdes pour présenter les projets. Donc, je vais demander 60 millions d'euros pour qu'on puisse embaucher très vite des jeunes chercheurs, parce qu'on a un problème d'embauche de jeunes chercheurs. Nous, les vieux, on est encore là pour les former, mais quand on sera plus là, qui va les former si on n'arrive pas
bien
à aller. Donc, il y a une continuité. Et quand on a décroché, on ne raccroche pas. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, parce qu'il y a une culture à entretenir qui est une culture importante dans le domaine. Ça dépasse les sciences, hein. C'est tout ce qui est l'intelligence,
bien entendu,
d'une certaine façon.
Oui.
Et donc, je vais demander 60 millions. Il dit, il nous faut 60 millions très vite pour la biologie parce que il y a un vrai problème. Ah, j'ai pas 60 millions, monsieur Prochon, je comprends bien, mais j'ai pas 60 millions. Le lendemain, l'écotaxe, 900 millions. D'accord? Donc pour nous, ça veut dire qu'il y a des choix qui sont faits et on n'est pas un lobby suffisamment puissant ou alors on n'est pas assez persuasif pour expliquer à des gens qui gouvernent ces pays ou ce pays l'importance incroyable de la recherche pour l'avenir même de ce pays. Voyez, on va parler de COP21 bientôt. C'est très bien COP21. C'est les scientifiques qui ont lancé l'alerte, hein, c'est pas les autres. Mm-hmm. Les autres, c'est plutôt contre. Mm-hmm. Et le GIEC, c'est quand même des scientifiques. Mm-hmm. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va avoir comme solution? Il faut développer le stockage du carbone, il faut développer les nouvelles sources d'énergie, mais il faut aussi développer la nutrition. Hein. On va avoir des gens qui vont vivre dans des régions où ils ne pourront plus manger. Hein. Et alors là, la lutte pour l'espace vital, je ne vous dis pas à quoi ça peut mener. Vous le savez, on l'a vu, hein, à quoi ça mène, la lutte pour l'espace vital. Hein. On l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, quasiment. Hein. C'était quand même le leitmotiv des nazis. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, il faut qu'on... Vous savez, le réchauffement de la planète, c'est peut-être lié à nous, mais c'est de l'évolution accélérée. Ben, il faut que les plantes évoluent de façon accélérée et que les animaux évoluent de façon accélérée. Et ça veut dire organisme génétiquement modifié. Ça veut dire développer la recherche en génétique. Ça veut dire développer tout ça. Et si on n'est pas là, ben c'est les autres qui le feront. Et on ne sera pas au rendez-vous alors qu'on a tout pour l'être. Vous comprenez? Et c'est ça, on est effaré. C'est comme des mômes qui casseraient leurs jouets. Et il y a un sentiment, moi j'ai 67 ans, donc je ne parle pas pour moi, je veux dire, dans 3-4 ans, je serai en train de compter mes points de retraite. Mais quand même, on est attaché à l'histoire de son pays, à cette nation qu'est la France. Et on se dit quand même, on a tellement d'atouts, on a tellement d'intelligence dans ce pays, pourquoi tant de gâchis? Voilà pourquoi tant de gâchis, pour si peu d'argent. Voilà.
J'espère que vous serez entendu à l'improchion.
Je ne sais pas, on verra. Hein. Mais bon, on sera battu, c'est déjà ça.
Prochain. Juste peut-être un mot sur le nombre de chaires qu'il y a au Collège de France actuellement. Est-ce qu'il vous en manque encore? Est-ce qu'il y a des nouveaux élus? Comment est-ce que les choses s'équilibrent?
Il ne faut pas que je sois pris à défaut dans mon nouveau job. Hein. ça fait qu'un mois que je suis là, donc je ne suis pas encore complètement à jour. Oui, normalement, on a une cinquantaine de chaires, mais on n'a pas... D'abord, je pense qu'on n'aurait pas les financements pour avoir les 50 chaires, parce que c'est y a des crédits de chaires. Chaque chaire coûte de l'argent.
Bien sûr.
Donc, le Collège de France n'est pas à plaindre, hein, mais on a quand même ouvert 17 000 m² de laboratoire, qui a un coût. C'était 60 millions d'investissements, dont des ressources propres du Collège, mais fait l'aide de la région, l'aide du gouvernement, etc. Mais ça veut dire 3 millions d'euros par an pour fonctionner, 5% à peu près de ça. Or, sur un budget qui est environ 35 millions d'euros, hein, c'est une augmentation que nous n'avons pas. D'où la nécessité de développer l'appel au public. On a une fondation du Collège de France. On cherche des mécénats.
Appel au mécénat.
Appel
absolument.
Au mécénat, oui, j'en profite. S'il y a des mécènes qui nous écoutent,
bien sûr, oui.
Voilà. Et donc, ça, c'est une action que l'on mène. Et ce qu'on aimerait, c'est effectivement avoir 50 professeurs. Mais de toute façon, même, c'est impossible, parce qu'il y a toujours un qui meurt ou prend sa retraite. Enfin, on préfère qu'ils prennent la retraite avant de mourir. Encore que certains, peut-être, préféreraient mourir avant de prendre leur retraite. Ça dépend un tout petit peu de comment on voit la vie. Et donc, il faut les remplacer. Et pour les remplacer, c'est pas facile. Parce qu'on veut pas se tromper. On peut faire des erreurs, bien entendu. Mais c'est un tel, je dirais, poids symbolique, le Collège de France, que je pense que notre droit à l'erreur est limité. Et donc, il nous faut quand même 2-3 ans pour élire un nouveau professeur. Pour vraiment faire le tour de la question. Hein. Donc, ça prend du temps. Donc, on n'a jamais renouvelé tous les professeurs. Et là, on a pas mal de professeurs qui vont partir à la retraite pour des questions de recrutement, d'âge, etc. Et donc, une de mes grandes responsabilités, ça va être de nouvelles élections. Il y en aura pas mal dans les 3 années qui viennent. Et ça me fait un peu peur, je ne cacherai pas.
Voilà. La place du collège actuellement à l'international est toujours naturellement absolument excellente et magnifique. Mais au fond, comment êtes-vous vu vous, Collège de France, par les grandes universités internationales, par exemple, par Harvard, etc. Parce que de toute façon, le Collège de France n'est pas une université, ne délivre pas de diplôme, comme on sait. Donc, cette place très particulière que vous occupez
On est vu comme une institution unique. Je pense que nous sommes une institution unique au monde.
Oui.
Parce qu'on a quand même quelques chercheurs de bon niveau dans cette maison. Et donc, on invite des professeurs à faire des cours ici, professeurs étrangers. Et donc là, on a eu cette année Jim Rothman, qui a eu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2013, qui a passé un mois avec nous. Et on a très souvent des professeurs de ce calibre, qui sont très ravis de venir passer un mois au collège. Ils connaissent leurs collègues, bien entendu, mais ils ne les connaissent pas à travers le collège. Donc, on a des professeurs qui sont professeurs au collège, mais qui ont leur laboratoire, qui à l'Institut Pasteur, qui à Strasbourg, qui à Aix-en-Provence. Mais quand ils découvrent l'institution, ils regardent aussi ce caractère unique et extraordinaire d'une institution où ceux qui sont supposés être les meilleurs, il y en a sûrement des meilleurs qu'eux à l'extérieur, on n'a que 50 chairs. Donc c'est évident que faut pas exagérer, c'est-à-dire que mais ce sont pas les plus mauvais, disons. Enfin, si on s'est pas trop trompé, d'où la responsabilité dont je vous parlais. Mais ils découvrent ça, des gens dont une des fonctions, c'est de faire la recherche, bien entendu, au plus haut niveau. Mais l'autre, c'est d'expliquer la recherche qui est en train de se faire, ce qui est en train de se cuire dans les cuisines des laboratoires, de l'expliquer à qui veut l'entendre, indépendamment du caractère
diplômé. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est magnifique.
Ah ben, c'est magnifique, bien entendu. Voilà. Et c'est très difficile. Je vous assure que c'est extrêmement difficile de faire ça.
J'en suis absolument persuadée.
Mais c'est vraiment quelque chose de très important. Et je crois que ça va aussi dans cette idée qu'il faut absolument sortir la science, la connaissance et la donner au plus grand nombre. Hein. C'est un peu comme le Théâtre National Populaire en son temps, quand il y avait encore des gens comme Villard. C'est-à-dire qu'on ne popularisait
pas... Ou France Culture.
Voilà. L'idée étant
unique,
non pas de prendre...
aussi au monde.
L'idée n'étant pas de vulgariser, c'est-à-dire de prendre ce qui est haut et le mettre bas... Oui. Mais de faire monter le bas vers le haut.
Absolument.
Et c'est ça l'idée du Collège de France.
Ce que disait, je crois d'ailleurs, Vitesse, l'élitisme pour tous.
Voilà.
J'aime beaucoup le côté très iconoclaste du Collège. Actuellement, tous les travaux remettent en cause, enfin, énormément d'idées reçues. Je pense que si les gens écoutaient un tout petit peu plus ce qui se passe et ce qui passe par le Collège, les pensées seraient un tout petit peu différentes.
Oui, mais il n'y a pas que le Collège, hein. Je pense que tous les grands créateurs, dans le domaine de la connaissance au sens large, hein, je ne mets pas que la science là-dedans, sont obligés de penser un peu à côté, bien entendu. Le off-Broadway est toujours extraordinairement important dans l'avancée des connaissances ou dans l'exploration de pas mal de choses.
Merci beaucoup, à la prochaine. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses et le meilleur.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
C'était Éloge du savoir avec aujourd'hui Alain Prochian, administrateur du Collège de France. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain pour écouter l'intervention de Mathias Girel, philosophe. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.